Aimez-vous.
33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Bienvenue, merci d'être avec nous pour la seconde partie de l'émission pour le débat. Quel rôle pour les États-Unis au Sahel ? Quel engagement américain pour la sécurité ? Pour l'instant, la situation est assez floue. Les États-Unis ont annoncé leur intention de retirer leurs troupes de la région, mais sans donner davantage de détails. La visite de Mike Pompeo sur le continent africain n'a pas permis d'en savoir plus. Le secrétaire d'État américain a promis de faire ce qu'il faut pour le Sahel, mais il n'a pris aucun engagement concret. D'ailleurs, il ne s'est rendu dans aucun des pays touchés par les violences djihadistes. Il a préféré faire escale au Sénégal. Alors qu'attendez-vous des Américains ? Quel rôle devraient-ils jouer au Sahel ? Pour lancer le débat, nous accueillons Clément qui nous appelle de Bol au Tchad. Bonjour.
Bonjour Anne Contemer, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Qu'est-ce que vous pensez de cette position américaine ?
Ben, moi, je pense que le désengagement américain peut, en tous les cas, c'est une décision souveraine. Mais je pense personnellement que si se désengage physiquement en retirant les hommes sur le terrain, cela ne nous dérangerait pas. Mais le gros problème, c'est le financement des opérations militaires des cinq pays qu'on appelle le G5 Sahel. Si le financement est assuré, la logistique est assurée, les renseignements sont assurés et tout le financement pour la paie des soldes des militaires sont assurés, je pense que les cinq pays seront capables de faire face aux extrémismes violents. Mais de l'autre côté, je pense aussi, et c'est important, c'est qu'on ne peut pas aller dans la lutte contre l'extrémisme violent sans parler de développement. Et si l'aide américaine peut aider ou l'aide des Occidentaux peut aider au développement des régions touchées par ces phénomènes djihadistes, c'est déjà suffisant. Donc malheureusement, à ce niveau, il y a beaucoup de choses à faire, y compris l'apport des Occidentaux dans ce domaine.
Et à des niveaux qui ne sont pas forcément militaires. Alors on n'en sait pas beaucoup plus en fait sur les engagements financiers des États-Unis parce que leur stratégie a changé récemment. Maintenant, ils disent que l'objectif, ça n'est plus d'affaiblir les djihadistes, mais de les contenir. Est-ce que vous comprenez cette position, Clément ?
Ben justement, c'est ça le problème, c'est que contenir les djihadistes, c'est bien, mais il faudrait absolument, nécessairement aller vers l'aide au développement. Sinon, ce serait éteindre le feu et le feu va se réallumer à nouveau. Et ça, c'est vraiment la chose pour laquelle les bailleurs de fonds, dans leur généralité, doivent tenir compte dans leur philosophie de développement du Sahel.
Donc pas seulement les États-Unis ?
Pour moi, pas seulement les États-Unis, c'est sûr. Toute la communauté de bailleurs doit vraiment en tenir compte dans leur stratégie du développement du Sahel. Pour moi, pas seulement les États-Unis. Et quand je parle comme ça, je pense à la France, je pense à l'Union européenne et je pense à toute la communauté de bailleurs de fonds.
Clément, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous de Bol au Tchad. Je vous lis un commentaire qu'on nous a envoyé par WhatsApp, qui est le commentaire de Modeste, qui va un peu dans votre sens. Il nous dit « La sécurité dans le Sahel doit être l'affaire de tous. Le G5 Sahel et les forces françaises de Barkhane ne peuvent pas résoudre seules l'insécurité dans la région. » On va accueillir maintenant un autre auditeur qui nous appelle de Ouagadougou. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Jean-Baptiste, on entendait à l'instant Clément qui nous parlait non seulement du développement, mais qui nous a parlé aussi du G5. Est-ce que selon vous, le G5 Sahel, donc cette force qui a été formée par les pays de la région, est-ce que cette force, ce G5 Sahel, est prêt à prendre le relais ?
Non. Je pense que le retrait des Américains aujourd'hui est un peu précipité, bien que cela semble relever un peu de choix politiques des Américains un peu partout dans le monde. En fait, il y a un repli visiblement qui se présente, que les Américains présentent au monde. Ils se replient sur eux-mêmes. L'Afrique, aujourd'hui, devient une victime collatérale de ce repli-là. Alors, il est grand temps pour nos armées de pouvoir prendre le relais. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu précipité, parce que les Américains auraient pu prendre le temps de passer un peu la main à nos armées pour qu'elles puissent, en fait, prendre le relais sur le terrain des opérations. Sinon, on a mis en place une stratégie pour lutter contre le terrorisme au Sahel et voilà un partenaire qui nous quitte en si bon chemin. Donc, forcément, ça va jouer en fait sur les capacités opérationnelles des armées qui luttent au Sahel. Mais ce qu'on tente de comprendre à travers ce relais-là, ce retrait des Américains, C'est qu'on a l'impression que les Américains forcent un peu la main à nos États d'aller un peu à une négociation avec les touristes. C'est ce que semble avoir compris le Mali, qui tente aujourd'hui une négociation.
Voilà. Ça a été annoncé, effectivement, qu'un dialogue, en tout cas des discussions pourraient avoir lieu. C'est vrai que les Américains ne cachent pas vraiment que le continent africain ne sont pas leurs priorités pour l'instant. Le chef d'état-major a dit récemment qu'il parlait du redéploiement des troupes américaines dans le monde et il a dit « si on a parlé de l'Afrique en premier, c'est parce que ça commence par un A ». Donc là, pour le coup, c'est quand même assez clair.
Voilà mais les Africains ne devraient pas s'en plaindre. Parce que, quoi qu'on dise, ça relève d'abord de leurs propres prérogatives, de leur obligation de pouvoir défendre leur État, de pouvoir lutter contre le terrorisme dans leur propre pays. Si aujourd'hui, on s'en plaint parce que les Américains sont en train de se retirer, nous, on trouve que, bon, c'est pas du tout normal. On devrait pouvoir avoir la capacité, nous-mêmes, de pouvoir assurer notre propre sécurité. Si les Américains nous viennent en aide, un peu comme la France le fait actuellement, bon, nous leur serons gré. Voilà, mais s'ils se retirent, bon, écoutez, c'est à nous de nous réorganiser, de pouvoir faire en sorte que... on puisse lutter contre le terrorisme dans le Sahel.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci beaucoup d'avoir été en ligne. On vous souhaite une très bonne journée à Ouagadougou. Vous nous parliez de cette nécessité pour les armées de pouvoir se former et d'être à même de mieux réagir elles-mêmes. On va voir si notre auditeur suivant est d'accord avec vous. Bonjour, Abou.
Oui, bonjour.
Abou, vous nous appelez de Nouakchott. On parlait justement des armées africaines et puis du G5. Les Américains ont quand même mis en place un centre régional d'entraînement à la lutte contre le terrorisme au Sénégal, à Thiès. Est-ce que selon vous, c'est une bonne chose ?
Je pense que c'est une très bonne chose parce que déjà que le fait que les Américains mettent à table l'équation de contenir aujourd'hui le djihadisme, parce qu'il faut aussi se poser la question sur la forme du combat, parce qu'on est dans un combat asymétrique. Et je pense que le fait de contenir, d'endiguer ce phénomène, c'est une bonne chose. Et je pense que les Américains, c'est ce qu'ils ont compris en disant qu'ils vont essayer, ce n'est plus d'éradiquer, mais de contenir. Parce que aussi, il faut le dire, la dissuasion est quelque chose de très important dans une guerre asymétrique. Autre chose, moi, je pense aussi que, s'agissant du G5 Sahel, pourquoi pas l'élargir aussi, le fait d'intégrer le Sénégal, et pourquoi pas la Côte d'Ivoire et puis l'Algérie aussi.
Mais d'ailleurs, effectivement, en plus, les États-Unis en parlent un petit peu, parce que Mike Pompeo, quand il était à Dakar, a bien, et les États-Unis présentent depuis longtemps le Sénégal comme ce qu'ils appellent le dernier rempart. Donc effectivement, peut-être que, enfin selon vous, en tout cas, il faudrait que des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, s'impliquent davantage.
Oui, bien sûr, parce que c'est un phénomène, c'est un cancer, c'est un phénomène qui tue ses racines du sous-développement et vit la situation économique de cette région. On sait que le développement, c'est quelque chose qui pèse énormément dans les populations. Donc, du moment que tout ce développement, il est là, le djihadisme va toujours prospérer. Donc, autre chose, et je pensais aussi, et pourquoi pas essayer, par exemple, de combiner les forces, que ce soit le Flintlocks et les forces Barkhane, essayer de combiner ces deux forces. Et puis,
alors, Flintlocks, je précise juste pour nos auditeurs, parce que je ne sais pas si tout le monde a bien suivi, ce sont des exercices militaires qui se déroulent tous les ans sous commandement américain et qui réunissent beaucoup de pays, beaucoup d'armées africaines et européennes. Et il y en a eu, là, récemment, ces derniers jours en Mauritanie.
Oui, voilà. Je pense que la combinaison des forces Barkhane et des forces Flintlocks, cela, d'abord, sera une vraie force de frappe, sera un moyen de dissuasion. Et je pense qu'avec les projets parce qu'il faut le signaler aussi, Barkhane fait des projets de développement, que ce soit la création des hôpitaux dans les campagnes, que ce soit au Mali, un peu partout. Donc, je pense que la combinaison de toutes ces forces pourra vraiment, à la longue, apporter une certaine situation de stabilité dans ces région et trouver aussi les moyens de financement, parce que moi je suis sûr que si les Américains s'impliquent pour trouver des financements pour le G5, je suis sûr qu'à terme, les pays africains de la région eux-mêmes pourront assurer leur sécurité et ce sera le retrait de Barkhane et l'arrêt de toutes ces dépenses qui vraiment les Africains, une fois les moyens mis à leur disposition, moi je pense qu'ils pourront à terme assurer leur sécurité.
Merci beaucoup, Abou, d'avoir été en ligne avec nous. Que les pays africains assurent leur propre sécurité, c'est aussi ce que nous dit André sur WhatsApp. Il nous dit l'Afrique doit prendre en charge sa sécurité. AFRICOM et Barkhane sont en Afrique depuis longtemps. Et finalement, quel résultat? On assiste quand même à la montée en puissance des groupes terroristes. On va rester en Mauritanie. Bonjour Hamza.
Bonjour madame.
Vous êtes en ligne de Nouakchott. Est-ce que vous comprenez, vous, cette position américaine et ce souhait de se désengager de la région du Sahel?
Tout à fait d'accord, madame. Mais avant de dire mon avis sur ce désengagement des Américains, moi, j'ai un petit souci que je voudrais juste, soit dit en passant, évoquer. J'ai l'impression que les djihadistes, c'est une puissance mondiale. Comment se fait-il que Barkhane, que la France, que l'Union européenne, que les Américains, que les armées des cinq pays du G5 n'arrivent pas à venir à bout d'un petit groupe de voyous? C'est pas possible, ça.
Mais alors, c'est toute la question, mais là, en l'occurrence, on parlait plutôt du rôle des États-Unis. Hamza, c'est pour ça que vous aviez souhaité intervenir. Qu'est-ce que vous pensez de leur position?
Je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense que leur position, elle est comme la position des forces étrangères qui ont toutes été là. On envoie des militaires pour ne pas faire la guerre. On envoie des moyens pour juste pour apparaître. Moi, je ne peux pas comprendre que l'armée américaine, elle n'est pas nouvelle, elle est là depuis longtemps. Elle a été ici depuis une dizaine d'années. Il y a des forces de Barkhane qui sont là depuis bien plus longtemps. Donc, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi veut-on nous faire croire qu'une poignée de voyous peut venir au bout des plus grandes forces américaines et européennes dans le monde?
Donc, qu'est-ce que les États-Unis devraient faire? Est-ce qu'ils devraient rester, selon vous, ou est-ce que c'est une bonne chose qu'en fait, ils s'en aillent et qu'ils laissent la main aux pays du G5 Sahel?
On ne fait pas la guerre, on ne libérera pas le Sahel par les Américains ou par les Européens. C'est les armées du Sahel qui libéreront. Les hommes ne manquent pas au Sahel. Ce qui manque, c'est la formation, la vraie formation. Pas la formation de 3 jours, 4 jours, 5 jours. Hein? Ce qui manque, c'est les armes. Ce qui manque, c'est les stratèges. Si les armées des 5 pays ont ces moyens, ils peuvent se suffire, ils peuvent carrément régler le problème. Pas besoin tout le temps d'amener des militaires de ceci, des militaires de cela, ou l'aide américaine. On a vu ce que se donnent les grandes armées comme aide. Ils viennent juste pour se promener, juste pour se promener. Et si l'un d'eux est blessé, c'est celle qui tombe sur la terre. Donc, s'ils tiennent à ce qu'on règle le problème, ils n'ont qu'à nous aider à avoir des moyens.
Et plutôt pour former les armées de la région, si je comprends bien. Merci beaucoup, Hamza, d'avoir été en ligne avec nous de Nouakchott. Je vous lis quelques commentaires encore qu'on nous a laissés sur WhatsApp. Un certain nombre de commentaires aujourd'hui sur ce sujet de la sécurité au Sahel. Abda nous dit que sans l'aide des Américains, ça serait mission quasi impossible, car il n'y a que les États-Unis qui puissent intercepter avec des drones les systèmes de communication des terroristes. Olivier de Pointe-Noire nous dit: je pense que ce désengagement de l'armée américaine va poser beaucoup de problèmes à l'armée française, surtout en matière de renseignement. On y revient. Olivier nous dit aussi: je pense plutôt à une autre approche. Les armées du Sahel sont mal équipées. Pourquoi la France ne peut-elle pas renforcer ces armées du Sahel qui sont mal formées, mal équipées? Direction maintenant Niamey, où nous attend Ali. Bonjour.
Bonjour, Ali Dodo de Niamey au Niger, en effet.
Qu'est-ce que vous pensez de cette décision des Américains de se désengager? On n'en sait pas grand-chose encore, mais enfin, en tout cas, on sait que c'est leur objectif.
Oui, tout à fait. Le secrétaire d'État Mike Pompeo était à Dakar. Malheureusement, nous avons bien entendu de lui un discours fort. C'était fort dans le sens de l'engagement des États-Unis aux côtés des pays du Sahel. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas le nier, il s'agit d'une guerre plutôt de communication. S'il réaffirme la présence des Américains, ça va donner le moral aux populations qui sont meurtries, ça va donner le moral à nos forces de défense et de sécurité, et véritablement, les terroristes vont être découragés parce qu'eux-mêmes suivent la communication. Donc, abandonner ou ne pas donner de la force à leur présence, ça veut dire qu'on abandonne les pays du Sahel et on abandonne également la France dans ses efforts. Parce qu'il est démontré que, enfin, les informations que nous avons, ils ont leur base de drones au niveau de la région d'Agadez.
Mais d'ailleurs, il y a des discussions pour la fermer, cette fameuse base américaine qui a été construite il n'y a pas si longtemps. Et il est question de peut-être fermer cette base qui abrite des drones.
Voilà, et c'est elle qui donne les informations à la France. Ça veut dire que plus les États-Unis se retirent, plus on ajoute les charges pour la France, qui n'a pas vocation seulement à elle seule de gérer ce qui se passe dans le Sahel. Donc, véritablement, les États-Unis qui parlent de climat d'affaires, il ne pourrait pas y avoir d'affaires dans un milieu d'insécurité.
La France a quand même annoncé récemment qu'elle allait envoyer 600 militaires de plus. Ça a été annoncé au début du mois. Est-ce que ça vous rassure, Ali?
Oui, c'est des propos pareils que nous voudrons bien entendre. Parce que là, ça galvanise nos populations, ça galvanise nos troupes et ça décourage le côté ennemi. Parce que s'ils apprennent qu'il y a du renfort, que ce soit dans le domaine de la communication, que ce soit dans le domaine sur le plan humain, là, ça va les décourager davantage. Mais qu'au moment, au moment crucial où le terrorisme est à son pic dans la zone, que les Américains disent qu'ils vont se retirer, qu'ils n'ont pratiquement pas d'intérêt, là, ce n'est pas correct en termes de relations, vraiment, et même en termes diplomatiques tout court. Ils ont raté la communication et nous avons bien estimé que les États-Unis auraient dû être beaucoup plus présents, surtout aux côtés de la France, parce que la France réaffirme et veut être véritablement et sur le front de ce combat-là et on peut carrément éradiquer le terrorisme.
Donc une question de communication et une mauvaise image, un mauvais signal qui est envoyé. Merci beaucoup Ali de nous avoir appelé. On va accueillir maintenant Maurice qui est en ligne de Ouagadougou. Bonjour.
Bonjour.
On parlait justement de l'image, de symbole. Il y en a un autre symbole qui est assez fort, qui a été relevé notamment par la presse burkinabé. Mike Pompeo n'a pas fait escale dans les pays qui sont directement touchés par les djihadistes. Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû ?
Oui, il aurait dû, parce que au nom de la solidarité internationale, je pense que les États-Unis doivent se sentir solidaires des pays du Sahel, d'autant plus qu'il y a des ambassades américaines dans tous ces pays. Et je pense que le peuple américain est solidaire des peuples du Sahel et des peuples africains de façon générale. Et je pense que sur cette base-là, les États-Unis, du point de vue de leurs dirigeants, ils devraient prendre une décision de surtout d'intensifier leur présence et accompagner ces populations-là. Bien sûr que les populations et les gouvernements de ces pays doivent prendre aussi leurs responsabilités et pour jouer leur partition. Mais les États-Unis doivent rester et surtout renforcer leur présence pour nous accompagner.
Maurice, je vous lis le commentaire d'un de nos auditeurs qui nous a écrit sur WhatsApp. J'aimerais avoir votre sentiment à propos de ce qu'il dit. Serge nous écrit « Les États-Unis ne vont pas retirer leurs troupes de sitôt et la raison est bien simple, ils ne vont pas laisser un terrain vide aux pays comme la Chine et la Russie qui sont prêtes à s'y installer. » Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce qu'en fait, il y a une question un peu d'affichage, mais que les États-Unis ne peuvent pas vraiment laisser le terrain vide, entre guillemets?
Mais en réalité, c'est une question de sécurité mondiale. Vous savez que le 11 septembre a eu lieu parce que simplement, certains ont laissé faire les terroristes. Et si on avait traqué les terroristes de l'Al-Qaïda depuis longtemps, on n'aurait pas eu un 11 septembre. Je pense que lorsque une partie du monde est attaquée, une partie du monde est un sanctuaire des terroristes, tous les pays doivent se sentir solidaires. Personne n'est isolé. Et je pense qu'il faut aller au-delà, couper les sources de financement du terrorisme et les trafics d'armes. Je pense que tous ces trafics-là sont faits au but aussi de certaines personnes qui doivent agir parce que une partie brûle, une autre partie est en tranquillité, mais en réalité, c'est plus tard tout le monde qui sera embrasé. Donc,
qu'on a entendu, par exemple, certains experts récemment s'inquiéter du fait que l'or pourrait devenir une source de revenus pour les terroristes au Sahel.
Exactement. Et effectivement, il y a beaucoup de sites d'orpaillage dans la région, dans tous les pays. Et vous savez qu'il y a certaines compagnies minières qui ont été attaquées. Et aussi au niveau de l'orpaillage, certaines populations sont chassées par les terroristes et puis à la place, ils mettent leurs hommes. Je crois que tout cela, ça nourrit les trafics d'armes et les trafics du terrorisme. Je pense qu'il faudrait que tout le monde se mette debout et puis jouer la carte de la solidarité internationale pour arrêter ce fléau-là. Parce que il y va de la survie de l'humanité dans sa quiétude au niveau mondial et au niveau local.
Merci beaucoup Maurice de nous avoir appelé. On vous souhaite une très bonne journée à Ouagadougou. Merci à tous d'avoir participé à cette émission, d'avoir enrichi le débat. La discussion se poursuit bien sûr sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Demain, vous retrouverez Juan Gomez pour une émission enregistrée à Bamako. Il sera question des infrastructures au Mali. Et dans 10 minutes, priorité santé, Caroline Paré vous propose cette semaine une série de reportages exceptionnels à l'hôpital de Garches, à côté de Paris. Cet hôpital accueille des patients para et tétraplégiques et notre reporter Igor Strauss en a suivi quelques-uns, de l'annonce du diagnostic à la sortie de l'hôpital en passant par les longs mois de rééducation et d'apprentissage de la vie après l'accident. Un reportage exceptionnel donc à retrouver dans 10 minutes.